Alors, on a déjà parlé des rois mages qui viennent à la crèche, dirigés par l'étoile. On a déjà parlé du tombeau de Rachel. On a déjà parlé de bien des éléments. Il y a quelque chose qui nous manquerait pour comprendre le prologue de Matthieu, c'est le livre de Ruth. Et nous sommes invités à lire dans le paysage de Bethléem. Vous le connaissez par Victor Hugo, mais c'est pas suffisant. Enfin, il faut le lire en entier. J'ai pas le temps de le faire, vous le direz, vous en ferez une lecture. C'est une Moabite. Et alors, il faut se rappeler les textes terribles qu'il y a sur les Moabites. Nous connaissons déjà la naissance, l'histoire des filles de Lot. Vous vous rappelez qu'on a raconté dans la grotte, dans la montagne de Sodome, je n'y reviens pas. Les Moabites, alors il est absolument interdit de contracter des alliances avec eux. Tenez, je vous lis ici un passage caractéristique de Néhémie. Néhémie nous montre une grande lecture de la loi. On dresse une estrade, on apporte le livre de la loi, et puis le scribe lit en expliquant, en faisant comprendre. Je crois que c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. C'est pas en multipliant les éditions des traductions qu'on va résoudre le problème. Il faut des gens qui soient capables de faire une lecture publique en faisant un commentaire selon l'auditoire qu'ils ont en face d'eux concrètement. Un targum, non pas un tirgum. Traduisant et donnant le sens, ainsi l'on comprenait la lecture de chapitre 8 de Néhémie. Alors on lit la loi et un beau jour on lit l'ammonite et le moabite ne seront pas admis dans l'assemblée de Dieu et cela pour toujours. Parce qu'ils ne sont pas venus à la rencontre des Israélites et qu'ils ont soulevé Balaam, vous rappelez? Alors, dès qu'on eut entendu la loi, on exclut d'Israël tout élément étranger. Et un peu plus loin, au même chapitre 13, je vis des Juifs qui avaient épousé des femmes Ashdodites, Ammonites, Moabites, et leurs enfants, la moitié parlaient l'Ashdodien ou la langue de tel ou tel peuple, mais ne savaient plus parler l'hébreu. Je les tensais, je les maudis, j'en frappais plusieurs, je leur arrachais les cheveux. C'est pas très pédagogique tout ça. Bon, et alors, on a trahi notre Dieu en ne mariant que des femmes étrangères, je les purifiais donc de tout élément étranger. On trouve le même ostracisme dans Esdras, soit le peuple, retour de l'exil, veut préserver son identité en mettant l'accent sur le particularisme, qu'on renforce. La race sainte s'est mêlée au peuple des pays, Esdras chapitre 9. Nous avons trahi notre Dieu en épousant des femmes étrangères. Nous allons prendre l'engagement solennel. Et vous rappelez ce qui se passe à la fin du chapitre 10 dans Esdras. Dieu fait tomber une grosse averse qui refroidit le zèle intempestif des fanatiques. Bon, mais alors à la même époque, on a un peu transformé le livre de Ruth en introduisant une généalogie. Et comme dans Saint Matthieu, que Saint Matthieu va reprendre. Oui, le livre de Ruth qui est si beau, vous le lirez. Et alors, il y a une phrase très curieuse ici. Elle revient à Bethléem. Comment est-ce qu'elle peut revenir alors qu'elle n'y a jamais été? Alors d'abord, les rabbins, ça leur pose un drôle de problème. Il faut lire ça dans le contexte de la Pentecôte, dans la tradition juive. Nous, l'Église nous invite à lire le livre de Ruth dans la préparation à Noël, pendant le temps de l'Avent. Alors la première réponse, c'est le Moabite, jamais, c'est pas possible, c'est écrit dans la loi, le Moabite propre. Bon, mais là, Moabite au féminin, première réponse. Alors, mais il y en a une qui va beaucoup plus profond. Ils ont la clé c'est eux qui peuvent nous apprendre l'Évangile. Et quand ils le veulent, ils ont une connaturalité. Moi, j'ai trouvé ça simplement dans des catéchismes élémentaires. Ruth revient à Bethléem. Comment est-ce qu'elle a pu revenir alors qu'elle n'a jamais été? Alors, ils interprètent le mot revenir au sens de teshuva. Le retour, la repentance, métanoïa, la repentance. Autrement dit, Ruth, la Moabite, du point le plus profond de la terre, répare la scission qui s'est faite lorsque Abraham et Lot se sont séparés à Bethel. Vous vous rappelez, on a raconté l'histoire. Ils étaient trop riches pour habiter ensemble, ils ne pouvaient plus arriver à partager. Alors c'est à ce moment-là qu'Abraham va s'installer à Mambré, tandis que Lot va s'installer à Moab. Alors, Ruth, descendante de Lot, remonte du point le plus profond de la terre, du point le plus pécheur, etc. Et puis elle vient s'insérer dans la descendance d'Abraham qui progresse par Bethléem jusqu'à la naissance du Messie, fils de David, fils d'Abraham. Sentez, c'est fulgurant cette histoire-là, le livre de Ruth. Et alors Ruth, la Moabite, est mise sur le même plan que Rachel et Léa qui sont à l'origine du peuple de Dieu. Il y a cette phrase extraordinaire. Deviens puissant en Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem, que grâce à la postérité que Dieu t'accordera à cette jeune femme, ta maison soit semblable à celle de Pérès que Tamar enfanta à Juda. Mais il y a aussi, Alors, tout le peuple est témoin lorsque Boaz dit son intention d'épouser Ruth la Moabite. Et les anciens répondirent que Dieu rende la femme qui va entrer dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui à elles deux ont édifié la maison d'Israël. Deviens puissant en Éphrata, fais-toi un nom dans Bethléem, que grâce à la postérité que Dieu t'accordera de cette jeune femme, ta maison soit semblable à celle de Pérez que Tama enfanta à Juda. Vous voyez, vous avez tous les noms qui sont dans la généalogie de Matthieu. Mais alors, à partir du verset 18 du dernier chapitre, manifestement, c'est une pièce rapportée. Le livre de Ruth reflète un contexte assez archaïque qu'on range habituellement après le livre des Juges, a été retravaillé au temps du retour de l'exil, alors justement que dans l'esprit d'Esdras et de Néhémie, on chassait les femmes étrangères. Et bon, alors quelqu'un de plein d'humour, comme l'auteur du livre de Jonas, qui est contemporain, dit mais attention, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Vous chassez les femmes étrangères, vous n'avez pas de vous rendre compte que Ruth, la Moabite, c'était l'arrière-grand-mère, pas de David, le roi messianique. Et d'ailleurs, on voit tout de suite que c'était retravaillé, parce que, tenez, Salmon engendra Boaz, et Boaz engendra Obed, et Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David. Normalement, d'après la loi du Lévirat, qui illustre le livre de Ruth, le petit gosse qui vient de naître, il ne devrait pas être le fils de Boaz, mais le fils du défunt. Pour hériter de tout ce que le défunt a. Vous lirez la petite note ici. Addition qui diffère des données du livre. Boaz devient le père de Obed. Le Lévira et le dévouement de Ruth sont passés sous silence. Mais un autre enseignement se dégage. Ruth, l'étrangère, confère Matthieu 1, verset 5, devient l'aïeul de David et par lui du Christ. Et c'est pas seulement Ruth qui est ramassée. C'est aussi, on dirait que Matthieu les collectionne à plaisir. Il y a Tamar. Alors ça, vous irez dire dans le livre de la Genèse. Ça se trouve entre le moment où Joseph arrive chez M. Putiphar, et puis le moment où il a des ennuis avec Mme Putiphar. Alors il y a l'histoire de Tamar. Vous irez lire ça. C'est assez scabreux. Moi, je le lis habituellement dans l'autobus. Là, les gens sont distraits habituellement à droite et à gauche, mais quand ils écoutent cette histoire, ils ne sont pas distraits. Vous irez lire cette histoire-là. Et Tamar. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la fameuse Bethsabée. Et elle n'était peut-être pas tout à fait innocente de se baigner comme ça sous les fenêtres du roi. Enfin bref, certains pensent qu'elle n'était pas aussi innocente qu'on pourrait le croire à première vue. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la fameuse Rahab qu'on a rencontrée. Tenez, pour ceux qui font de la catéchèse ici, c'est pas facile d'expliquer aux petits-enfants que le métier de Madame Rahab, en hébreu ça se dit Zona, pas la prostituée. Alors c'est la même racine que Mazon qui veut dire nourriture. Alors provisoirement, ils sauront assez vite ce que ça veut dire. On dit que c'était la cantinière, c'était celle qui ravitaillait. Bon, on dirait que Matthieu les ramasse à plaisir, vous irez voir dans cette généalogie. Encore une fois, cette généalogie m'évoque le festin qu'il a fait après sa conversion. Et alors il nous invite à ramasser tout ce qu'on a lu au point le plus profond, le plus pêcheur du globe, vendredi, lorsque en descendant au point le plus profond du globe, au plus profond de nous-mêmes, on se préparait à recevoir celui qui est venu, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Et nous les justes, disent certains, alors là c'est incurable. C'est incurable, ils ont raté complètement toute la pédagogie divine. Et comme Nicodème, vous rappelez un petit peu, là, si tu ne renais pas de l'eau et de l'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Ce qui nous est proposé, c'est une nouvelle alliance qui n'est rien moins qu'une nouvelle création. Et pour en bénéficier, il faut en avoir besoin. Alors là, toute la pédagogie divine nous mène à cela. Alors, si vous avez compris généalogie du Nazoréen, tout le reste se range comme les éléments d'une mosaïque extraordinaire. On n'a pas le temps de tout développer, mais vous avez la clé. Il y a la fameuse prophétie de l'Emmanuel. Alors là, il n'y a pas de doute qu'une tradition juive, reflétée par les Septante, la fameuse traduction en grec qu'on a faite à la cour des Ptolémées d'Égypte, reflète l'idée d'une naissance miraculeuse. On a traduit Alma, ce qui ne veut pas dire nécessairement vierge en hébreu, la jeune fille. On l'a traduit par Parthénos. Alors quand même, il semble bien qu'il y a une tradition juive que reprend saint Matthieu. Ce qu'il faut remarquer peut-être, c'est que tandis que la généalogie de saint Matthieu s'arrête à saint Joseph, Joseph, époux de Marie, de qui est né le Christ. Vous voyez, la continuité est marquée par Joseph. Mais alors, pour Saint-Luc, il met l'accent plutôt sur la nouvelle création. Comment cela se fera-t-il? La puissance du Très-Haut, la dynamique subsiste tous et la nuée lumineuse, lorsque le tabernacle est achevé dans le désert, lorsque le temple de Salomon est achevé, vient couvrir la demeure, à la plénitude des temps, lorsqu'elle est achevée, et puis celui qui vient, est appelé, c'est le Saint. Le Saint, la gloire de Dieu qui remplit la demeure. Vous voyez, les deux évangiles sont complémentaires. L'un mettant l'accent sur la continuité qui aboutit à Joseph, et l'autre mettant l'accent sur la nouvelle création. Et d'annonciation et la visitation, on l'a déjà vu, reflète la grande iconographie de la demeure qui n'est pas construite de main d'homme et sur laquelle la puissance de Dieu vient reposer, la nuée lumineuse, et la gloire de Dieu envahit la demeure. Et celui qui sera appelé saint, c'est pas saint n'importe qui, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a plus dans ce texte, si on le lit comme il mérite d'être lu, que dans les grands conciles de Nicée, Chalcédoine, Éphèse et Constantinople. Immanuel, Dieu avec nous. Le grand paradoxe qui est présent dans la Bible, partout, d'un Dieu transcendant et immanent, s'accomplit là dans Jésus, qui dans sa personne divine est aussi véritablement homme que véritablement Dieu, aussi véritablement Dieu que véritablement homme. Et on n'insistera jamais sur cette clé de voûte de toute la dogmatique chrétienne. Si vous touchez à ça, tout s'écroule.
Alors, pour être franc, cette relecture du prologue de Matthieu, généalogie du Nazoréen, dans les horizons de Bethléem, en fait, je l'ai enregistré dans ma chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps se faisait court, et puis l'opérateur, la Pascal, qui accompagnait Jean Didier, était malade, alors on a enregistré ça dans ma chambre, et il y a une manette qu'il a dû oublier de bouger, parce que je me suis aperçu en enregistrant que mon appareil stéréo, il y avait qu'un côté qui m'a marché. Bon, en tout cas, tout ça, c'est des détails.